parler dans la journée. Et cette actualité, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on continue d'en parler avec vous, Juan Gomez, dans Appel sur l'actualité.
Et les questions des auditeurs. Merci Julien Coquel-Rohem. 8h10 en temps universel.
Radio G, 101.5 FM.
Sur les ondes de Radio G au 101.5 FM et à l'écoute de Tout compte fait, l'émission qui mêle joyeusement histoire et musique à destination de toutes les oreilles curieuses. Aujourd'hui, je vous propose d'enfourcher de nouveau votre deux roues préférées pour la dernière étape de notre Tour de France. Nous allons pédaler ensemble pendant 30 minutes dans la joie et la bonne humeur. Du haut plateau de l'Aubrac à la Bretagne enchantée, en faisant une halte amplement méritée dans les épaisses forêts du Limousin. Ravitaillement musical assuré après chaque histoire pour dégourdir les mollets bien courageux. Rejoignez vos montures car nous allons bientôt démarrer notre périple avec l'ami Pierre. Pierre Calia qui, de par sa bêtise, fait le désespoir de sa mère. À vos marques, prêts ? Partons.
Tout compte fait.
Tout compte fait.
Tout compte fait.
Tout compte fait.
Je vous parle en direct de cette 17e étape du Tour de France. Le peloton, énorme machine de muscles et d'acier, vient de s'élancer. Monter en danseuse, appuyer sur la pédale, surveiller son braquet. Que d'épreuves pour ces jeunes hommes qui, en attendant l'auréole de la victoire, se contentent de celle de la sueur qui laisse dans son sillage ce trait de musc que connaissent bien les supporters massés le long des routes. Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors ils se défoncent car la ligne est encore loin. Alors que le peloton n'est plus qu'un souvenir, le glas des premiers abandons résonne dans la montagne. Face à l'effort, ceux qui ont le coup de pédale moins rageur donnent l'impression de reculer, de s'effacer, de disparaître.
Tout compte fait.
Tout compte fait.
Pierre, est-ce que tu peux aller à la foire m'acheter des épingles ?
Bah oui, maman.
Et Pierre s'en va à la foire acheter des épingles. Et voilà qu'en revenant, il trouve un char rempli de foin. Et il ne trouve rien d'autre à faire que d'y planter les épingles dedans. Bah Pierre, où as-tu mis les épingles ?
Je les ai plantées dans un char à foin et après je les ai pas retrouvées. Pfff, mais imbécile ! Il te fallait les planter à la boutonnière.
Ah bon ?
Je le ferai une autre fois, ma mère.
Pierre, tu peux aller me chercher un soc de charrue à la foire, s'il te plaît ?
Pierre s'en va à la foire, il achète le soc de charrue et il le fiche à la boutonnière. Mais c'est que la boutonnière craqua avec le poids du soc et que le soc se perdit.
Pierre, où as-tu mis le soc ?
Ma mère, je l'ai mis à la boutonnière, mais la boutonnière a craqué et mon soc est tombé, je l'ai perdu.
Mais Pierre, le soc, il fallait le porter sur l'épaule.
Ah bon ? Je le ferai une prochaine fois, ma mère.
Pierre, est-ce que tu peux aller à la foire m'acheter un porc ?
Pierre s'en va à la foire, achète le porc et le met sur son épaule.
Mais voilà que le porc lui mange l'oreille et lui fait caca dans la poche.
Pierre, Tu n'as pas acheté le porc. Bah si, maman. Mais je l'ai mis sur mon épaule, comme tu m'as dit. Et il m'a mangé une oreille et il m'a fait caca dans la poche. Mais Pierre, mais quel imbécile que tu fais. Tu ne pouvais pas l'attacher à une ficelle, hein, et le mener comme ça. Je le ferai la prochaine fois, ma mère. Pierre, est-ce que tu peux aller à la foire m'acheter un chaudron? Oui, maman. Et Pierre s'en va à la foire. Et cette fois-ci, il n'oublie pas d'acheter la ficelle. Et il attache la ficelle au chaudron et il traîne le chaudron jusqu'à la maison. Mais c'est que quand il arrive à la maison, eh bien le chaudron, il n'avait plus de fond. Pff, mon pauvre Pierre, mais t'es vraiment qu'un bon à rien. Je ne t'enverrai plus jamais à la foire.
Tout compte fait.
Tout compte fait.
Connais-tu l'histoire que me racontait ma nounou? C'est une belle histoire que j'écoutais sur ses genoux. Si le cœur t'en dit, ma jolie, écoute-moi, je vais te la dire en mi-voix. Elle était une fille douce et tendre comme toi, tout aussi gentille, se promenait dans les bois. Et voilà soudain qu'en chemin, elle aperçoit le grand méchant loup aux abois. Ouh, cha-cha-cha du loup. Ouh, cha-cha-cha du loup. Encore à l'âge où les filles ont peur de nous, tu es bien trop sage pour venir sur mes genoux. Mais je t'aime bien, ne crains rien, approche-toi, je ne te mangerai pas. Ne sois pas cruelle, viens dans mes bras, ma jolie. Viens plus près, ma belle, et ne tremble pas ainsi. Je ne te ferai aucun mal, je ne suis pas le grand méchant loup.
Tout compte fait, tout compte fait.
Il était une fois une vieille femme qu'on appelait Miette. Elle était veuve et demeurait avec sa nièce dans une petite maison à l'orée des grands bois. Elle était avare à ramasser une crotte pour un liard. Et comme elle avait quelque argent, elle passait le meilleur de son temps assise derrière le mur de son jardin à compter ses écus et à les recompter et à les compter encore et à les compter toujours là sur son tablier et à les taper les uns contre les autres pour les faire sonner. Quelle douce musique à l'oreille! Non, vraiment, froisser des billets, même neufs, ne rendrait pas si bien. Ah, l'heureux temps des écus! Un jour qu'elle était attelée à cette besogne, vint à passer un jeune homme que ce bruit alerta. Il s'arrêta, ouvrit le portillon du jardin et, considérant les écus, dit à la vieille : si vous vouliez me donner vos écus, nous nous marierions tous les deux. La vieille hésita bien un moment, tant ses écus et ses peu dire lui étaient chers, mais le garçon était beau et d'une impensable jeunesse. Et puis, il y avait bien des fois où un homme faisait défaut à cette pauvre femme et à son bien. Elle se décida tout à coup et dit « Je veux bien ». Alors le jeune homme ramassa les écus et dit « Eh bien, à compter de ce jour, tenez-vous prête. Je viendrai vous chercher par une nuit de brouillard. » Depuis ce moment, toutes les nuits, la mère Miette faisait lever sa nièce pour voir le temps qu'il faisait. Comme c'était dans une année de beau temps, invariablement, la jeune fille disait « Tante, ah, il fait beau !» Et le clair de la lune est tel qu'on retrouverait une aiguille par terre. Et la vieille répondait en maugréant « Beau temps pour toi, petite, beau temps pour toi, mauvais temps pour moi. » Cela dura longtemps ainsi. et la pauvre mère Millette commençait à se désespérer. Lorsqu'une nuit, la nièce dit « Oh, tante, oh là là, quel mauvais temps! Oh, cette nuit, il fait si noir que c'est comme dans un four! Il y a tellement de brouillard qu'on n'y voit pas de la bouche au nez. » « Ah, mauvais temps pour toi, ma petite, mauvais temps pour toi, beau temps pour moi !» Et se disant, prestement, elle sauta au bas de son lit, passa son beau cotillon propre, prit son tablier de soie, ses sabots vernis, son chapeau à ruban, et ouvrit la porte. Elle n'avait pas menti, sa nièce, il faisait vraiment noir d'encre. Mais elle vit devant sa porte quatre lanternes qui éclairaient. La mère Millette, que son avarice n'oubliait jamais, dit avec reproche « Mais ces bonnes gens, ce n'était pas la peine d'allumer quatre lanternes, c'est bien trop de dépenses. Il y en avait bien assez d'une. Lors de notre mariage avec mon pauvre homme, nous n'en avions pas plus. » Et elle sortit. Mais elle n'eut pas plus tôt franchi le seuil de la porte qu'elle fut entraînée au grand galop à travers bois. Elle se cognait d'un côté, elle se cognait de l'autre, elle était tirée à droite, elle était tirée à gauche, et elle en était toute décoiffée. Elle avait beau dire « Oh, mes pauvres garçons, mais vous me faites bien trop courir, n'allons pas si vite, laissez-moi souffler un peu, je n'ai plus mes jambes de 20 ans !» Lorsqu'elle parlait ainsi, c'est alors que ça courait le plus. On eût dit que le son de sa voix endiablait plus encore cette course folle. Ce qu'elle n'avait pas vu, la mère Millette, c'est qu'elle avait affaire à deux grands loups. Et ce qu'elle avait pris pour quatre lanternes, eh bien c'était leurs deux paires d'yeux. À la fin de la course, elle tomba. Et aussitôt, les loups se jetèrent sur elle et la dévorèrent. Le lendemain, le jeune homme, à qui la mère Millette avait donné son argent, vint la chercher. Il s'était égaré la veille au soir et au lieu de venir de nuit profonde, comme il avait dit, il venait de jour étincelant. Et il ne trouva que la nièce. D'ailleurs, jolie comme tous les anges du paradis et fort inquiète du départ précipité de sa tante. Tous deux allèrent à sa recherche, en suivant sa piste, et bientôt trouvèrent l'endroit où les loups l'avaient mangée. Il ne restait plus d'elle que ses pauvres vêtements tachés d'un peu de sang. Ils revinrent bien lentement à la maison. Au long du chemin, ils se regardèrent, d'abord à la dérobée, puis ouvertement. Puis ils se prirent la main, ils se plaisaient bien. Ils se plurent tant qu'ils se marièrent et furent bien heureux. Et il fit dire beaucoup de messes pour la pauvre mère Millette. Et oui, il lui devait bien ça.
Tout compte fait. Tout compte fait.
Grand-mère lavait nos chemises au lavoir près de la remise. Le chat faisait le gros dos sur l'âtre auprès du feu. Quelle est belle la Bretagne quand elle pleut. Très vieux, quelle est belle la Bretagne quand elle pleut. Et la petite fille de l'école, je crois qu'elle avait la rougeole. J'ai jamais osé lui dire que j'étais amoureux. Quelle est belle. Thank you. jamais ne reviennent. Ont une envie de la mer quand même au fond des yeux. Quelle est belle ma Bretagne.
Trois jeunes hommes revenaient ensemble chez eux après avoir passé la plus grande partie de la nuit à jouer aux cartes et à boire dans une ferme de la paroisse de Plougonven. Il était 2 ou 3 heures du matin. C'était au mois de décembre, le temps était froid, la lune claire, et ils rentraient en parlant de leur partie de cartes. Comme ils arrivaient à un ruisseau, l'un d'eux, Yannick Medec, dit oh, « On prétend qu'on voit là une lavandière de nuit. Si nous la voyons tout à l'heure, nous la jetterons la tête la première dans l'étang. » L'étang était dans une prairie qui bordait la route et n'en était séparé que par un talus. Yannick monta sur le talus et dit à ses deux camarades « Elle est là, la lavandière de nuit. Montez sur le talus et vous la verrez. » Ils montèrent sur le talus et virent une femme qu'ils ne connaissaient pas, qui trempait du linge dans l'eau du lavoir, puis l'en retirait, le frottait et le battait avec un large battoir dont le bruit retentissait dans la vallée. Ils restèrent quelque temps à la regarder, silencieux et saisis d'étonnement. Mais comme ils avaient bu quelque peu d'eau de vie et qu'ils se vantaient de n'être pas peureux, l'un d'eux cria « Hé ! Et voulez-vous que nous vous aidions à tordre votre linge, la lavandière ?» La lavandière ne répondit pas, mais elle posa son battoir sur la pierre, se leva et regarda d'où était venue la voix. Aussitôt, les trois camarades, saisis de terreur, sautèrent à bas du talus et s'enfuirent comme si le diable était à leur trousse. Yannick Medec tomba, s'écorcha le nez et le front, puis se releva et reprit sa course, abandonnant ses sabots et son chapeau. Les deux autres jetèrent aussi leurs sabots sur la route et ils furent heureux de pouvoir se sauver dans la chaumière d'Erwan Madec qui se trouvait près de là. La lavandière était sur leurs talons, son battoir levé, et si elle les avait atteints, elle les aurait assommés. Elle ne pouvait pénétrer dans la maison, mais elle jeta son battoir contre la porte avec une telle violence qu'elle la brisa. Les trois camarades ne soufflaient mot, mourant de peur, et ils n'osèrent sortir avant le jour. Ils allèrent alors chercher leurs sabots et leurs chapeaux à l'endroit où ils les avaient abandonnés, mais ils ne les trouvèrent que brisés et déchirés en 1000 morceaux sur la pierre de l'étang où la lavandière de nuit lavait son linge au clair de lune.
Tout compte fait, tout compte fait.
Thank you.
Tout fait.
Barbaïklo était servante au manoir de Kerem-Borgne. Barbaïklo était jeune, rieuse et espiègle. En ce temps-là, au manoir de Kerem-Borgne, il y avait un lutin, son lutin familier. Il s'occupait des vaches, lesquelles, grâce à lui, donnaient toujours en abondance un lait délicieux, riche en crème et en beurre. La nuit, le lutin balayait la cuisine, lavait les marmites, récurait les casseroles, fourbissait les bassines de cuivre jaune, frottait les meubles, les armoires, les buffets, les vieux bahuts de chêne sculptés. Et c'était un plaisir de voir la cuisine de la vieille Mararite, la cuisinière du manoir. Tout était d'une admirable propreté, tout reluisait et partout l'on pouvait se mirer. C'est que quand Mararite allait se coucher, elle laissait toujours une bonne braise au foyer. Elle plaçait au coin de l'âtre un galet arrondi, poli par la mer, et de son lit, elle voyait le lutin qui venait se chauffer jusqu'au chant du coq quand sa besogne était faite, en écoutant les chansons de son ami le grillon. Il avait tout au plus un pied de haut, et jamais Mararite n'avait pu voir son visage, lequel disparaissait sous un chapeau à large bord, comme on en portait autrefois dans une partie de la Cornouaille. Un jour, la vieille Mararite mourut et la jeune Barbaïklo obtint à son tour la place si enviée de cuisinière au manoir. Elle en était très heureuse et très fière. Et tout alla on ne peut mieux dans les premiers temps. Le lutin était bien content d'épargner la peine de la belle et joyeuse Barbaïk et il se réjouissait de l'entendre rire et chanter tout au long du jour au lieu d'entendre bougonner la vieille Mararite. Mais Barbaïk, qui ne pensait qu'à faire des farces, eut l'idée un jour de jouer un tour au lutin. Une nuit, avant de se coucher, elle chauffa le galet au feu, puis le mit à la place ordinaire et de son lit guetta avec impatience l'arrivée du lutin. Celui-ci vint comme d'habitude et alla sans méfiance aucune s'asseoir à sa place accoutumée. Mais aussitôt, il se releva en poussant un cri épouvantable qui ébranla toute la maison. Puis il s'enfuit en se frottant les fesses et en renversant tout sur son passage. Barbaïk eut peur. Elle comprit qu'elle avait commis une faute grave et elle s'en repentit. Mais hélas, il était bien trop tard. De ce jour, tout alla on ne peut plus mal pour elle. Les vaches devinrent maigres et décharnées, ne donnèrent presque plus de lait et le peu qu'elles donnaient grissait aussitôt. Dans la cuisine, n'en parlons pas. Ce fut un désordre et une malpropreté inconcevable. La pauvre fille avait perdu toute sa gaieté. Elle ne pouvait plus toucher à un pot, à une assiette, sans les laisser tomber sur les dalles de la cuisine et les voir voler en éclats. Et alors, un rire terrible retentissait à ses oreilles. Sa cuisine était devenue tout bonnement détestable. La soupe et la bouillie étaient toujours trop fades ou trop salées, les crêpes brûlées, les viandes mal cuites. Les domestiques se plaignaient tellement de leur nourriture que l'on finit par congédier Barbaïklo. Ah, elle trouva facilement à se placer ailleurs, mais le malheur la suivit partout. Et bientôt, plus personne ne voulut d'elle. Alors, elle fut réduite à aller mendier de porte en porte, courbée sous la malédiction du lutin qu'elle avait offensé.
Tout compte fait. Tout compte fait.
Parcouru la France en chantant une romance de France, descendant les rivières, j'ai cueilli de la bruyère de France, les Pyrénées, les nuits sereines, les monts, les plaines, la Méditerranée, oh oui, j'ai retrouvé Mireille sur les quais du vieux Marseille, et nous sommes repartis ravis. matin, j'ai pris le bâton pour aller en voyage, bien loin de ma maison, vers d'autres paysages. Sachant bien que mon pays ne manque pas d'allure, joyeux, je suis parti à l'aventure. J'ai parcouru la France en chantant une romance de France. De France, descendant les rivières, j'ai cueilli de la bruyère. De France, les Pyrénées, les nuits sereines, les monts, les plaines, la Méditerranée. Oh, et j'ai retrouvé Mireille sur les quais du vieux Marseille, et nous sommes repartis ravis.
De s'achever. Et oui, que de kilomètres parcourus depuis notre départ des Hauts-de-France en janvier dernier. Vous en voulez encore ? Pas de problème. Retrouvez cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio G à la rubrique de l'émission Tout compte fait. Jeudi prochain, vous débuterez le mois de mars avec l'émission J'entends des voix. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le jeudi 10 mars à 9h10 pour de nouvelles aventures. Bonne journée à l'écoute de Radio G.